Bonjour à tous, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Bonjour Patrick Sbalquiro, Justina.
Bonjour.
Patrick, nous repartons sur les traces de la Vierge Marie. Et Justina, vous commencerez un nouveau cycle sur la mort, l'intercession et l'eschatologie. Alors, démarrons tout de suite cette nouvelle émission avec vous, Patrick Sbalquiro. Vous êtes, je le rappelle, docteur en histoire, auteur, journaliste et avez écrit de nombreux ouvrages sur des phénomènes extraordinaires et divers. Mais si vous êtes à nos côtés aujourd'hui, c'est pour nous parler de la Vierge Marie. Alors, nous allons commencer par évoquer trois lieux d'apparition pas aussi connus que Lourdes, Cotignac, voilà, ah bon peut-être. Alors nous allons commencer avec Notre-Dame des Miracles et des Vertus.
Voilà.
Oui.
Nous sommes à Rennes en 1357, c'est-à-dire à la fin du Moyen-Âge, presque à la fin du Moyen-Âge. La guerre de succession de Bretagne bat son plein et de surcroît, les Anglais sont en train d'assiéger la ville de Rennes, en Ille-et-Vilaine. Et dans ce siège, eh bien, de très nombreux habitants prennent peur. Et comme malheureusement cela arrive, c'est arrivé au cours de l'histoire, une partie de ces habitants se réfugie dans les églises. Et en particulier dans l'église du Saint-Sauveur. Et là se produit un phénomène absolument incroyable. Quatre récits différents témoignent de ce qui s'est passé cette nuit-là. Les gens sont plongés dans une obscurité quasi totale et subitement, les cloches de l'église se mettent à sonner, les cierges s'allument sans intervention humaine, nous disent les textes, et il y a parmi cette foule de gens apeurés quelqu'un qui remarque que là, il y a une statue évidemment de la Vierge, qui vient de remarquer que cette statue est comme devenue vivante, quasi vivante, comme un être humain. Et alors là, il y a plusieurs témoins hein, qui sont absolument certains du fait. La Vierge désigne par l'une de ses mains un endroit dans l'église qui est une dalle au sol. Subitement, il y a des gens qui se demandent, ils sont pris au piège, hein, ils sont vraiment entourés. On se précipite sur l'endroit désigné par la statue, on creuse, et là, on découvre une sorte de souterrain, de passage souterrain, qui permet l'évacuation des dix fidèles, donc de l'église, qui sont tous sains et saufs. Voilà l'origine, donc, de cette mariophanie, hein, manifestation de la Vierge. Et du reste, l'église Saint-Sauveur de Rennes a été érigée en basilique, hein, basilique mineure, au début du XXe siècle.
Et alors, j'imagine qu'on y fête tous les ans.
Oui, il y a bien sûr une fête qui commémore cet événement de 1357. C'est bon, c'est pas une fête nationale hein, quand même, ni même régionale, mais il y a toujours un flux de pèlerins, un flux de chrétiens qui viennent, hein, donc fidèlement hein, pour ce jour-là. Tout à fait.
C'est magnifique. Alors, Notre-Dame des Treize-Pierres, c'est bien, bien étonnant comme nom.
Notre-Dame des Treize-Pierres, c'est un nom étonnant pour un fait étonnant.
Racontez-nous.
Alors là, nous sommes au début de la Renaissance. Hein. Nous sommes en 1509, en France, bien sûr. Donc, dans le département actuel de l'Aveyron, près de Villefranche, hein, de Villefranche-de-Rouergue. Oui. Il y a là un pauvre paysan qui voyage avec un attelage de bœufs, sur la route. Et puis, arrive ce qui parfois arrive, c'est que l'attelage entre sur un terrain vraiment boueux, hein, catastrophique, vraiment impraticable, et il ne peut plus avancer. Les animaux même refusent d'avancer. Alors, le pauvre homme est atterré. Il y a de plus dans sa charrette un certain nombre de marchandises qu'il compte vendre dans une foire locale. Et il se met à prier. Il s'agenouille, il se met à prier. Et là, apparaissent, je dis bien apparaissent au pluriel, devant lui, eh bien, 13 êtres célestes, en l'occurrence la Vierge Marie, suivie des 12 apôtres. Et alors, c'est un phénomène, à ma connaissance, unique quasiment dans l'histoire du christianisme, puisque chaque Marie et chaque apôtre est posé sur une pierre, un gros caillou, hein, qui, mis ensemble, dessine un chemin par lequel il peut eh bien, s'en sortir avec ses bœufs et sa charrette. D'où le nom, hein, d'où le vocable de Notre-Dame des Treize-Pierres.
C'est magnifique comme histoire. Est-ce que ça a été reconnu ?
Alors, ça a été reconnu dans le sens, pas dans le sens actuel. Vous savez que les enquêtes canoniques datent du 19e siècle. Mais il y a eu, bien sûr, des pèlerinages, une sorte de petit sanctuaire qui a été construit. Et le pèlerinage local s'est poursuivi à travers le temps, à travers les siècles, avec évidemment des périodes plus ou moins fastes.
Très bien. Alors maintenant, partons en Corse avec la Vierge de Miséricorde.
Alors là, nous sommes tout petit peu, donc après les événements de Villefranche-sur-Ouac, nous sommes en 1536, près d'Ajaccio, dans une campagne, sur un endroit assez escarpé. Et là, il y a une apparition de la Vierge à un pauvre travailleur agricole. Et alors, c'est très très intéressant parce que l'apparition de la Vierge, d'un point de vue visuel, ressemble à beaucoup d'autres apparitions. Mais là, elle ne dit qu'un mot, un seul mot, miséricorde. C'est là aussi, à ma connaissance, le seul cas que nous ayons, dont les sources, bien sûr, documentaires relatent ce type de message. Un mot, miséricorde. D'où le nom Notre-Dame de Miséricorde. Notre-Dame de Miséricorde qui est devenue patronne et protectrice de la ville d'Ajaccio, un petit peu plus tard, en mars 1660, donc au XVIIe siècle. Et là aussi, il y a un pèlerinage qui perdure, donc en Corse, à l'endroit du rocher sur lequel Marie s'est manifestée.
Est-ce que ce mot miséricorde était beaucoup usité à l'époque ou alors il a surpris enfin...
Non, il n'a pas surpris. Ce qui a surpris, c'est qu'il soit prononcé seul,
oui,
sans ajout, pur et dur, si j'ose dire. Non, en général, les messages des manifestations les plus sérieuses sont plus longs.
Oui.
Ou alors il n'y a pas du tout de message, mais là, c'est encore plus compliqué. Mais s'il y a un message, en général, ils sont beaucoup plus longs. Là, un seul mot.
Très bien. Alors, j'ai une petite question encore, si vous voulez bien, sur Notre-Dame de Picheloux ou Arnaud Guilhem.
Oui.
C'est assez proche de Lourdes, c'est étonnant, parce qu'on pourrait se dire que...
Alors, voilà. Tout à fait. Vous mettez le doigt, si j'ose dire, sur un point extrêmement important. Après les apparitions, les 18 apparitions de la Vierge à Sainte-Bernadette, à Lourdes, il y a eu ce qu'on appelle une épidémie d'apparitions. Picheloux ne rentre pas dans le cadre de cette épidémie. Mais il y a eu des épidémies, il y a eu environ une bonne trentaine d'apparitions alléguées à la suite des apparitions de Lourdes.
Bon. Et dans la région de Lourdes.
Dans la région de Lourdes. Aucune, évidemment, n'a été non seulement reconnue, mais même suivie avec un tant soit peu de sérieux. En revanche, Picheloux, c'est un cas à part. C'est un cas à part. On est donc au département de Haute-Garonne, Midi-Pyrénées. Et là, en 1859, donc Lourdes s'est terminé en matière d'apparition, eh bien, quatre petites fillettes voient la Vierge à deux reprises. Alors, la première apparition se situe un dimanche, d'où le vocable aussi de Notre-Dame du dimanche, si je me souviens bien.
Il y a une autre apparition qui a ce nom aussi, Symposie.
Pourquoi le dimanche? Simplement parce que l'apparition demande évidemment le respect dominical,
du
repos, bien entendu. Donc la Vierge apparaît à quatre petites, et une deuxième fois un mardi cette fois-ci. Donc là, c'est encore autre chose, mais elle rappelle évidemment, prière, conversion, pénitence, etc. Ce qui est intéressant, c'est que ces apparitions n'ont jamais été reconnues, mais les quatre voyantes sont devenues religieuses, et l'une des quatre a continué jusqu'à assez tard dans sa vie, à avoir des visions, notamment des visions du Christ. Des visions du Christ dont elle fait part à sa supérieure, à la mère supérieure de son monastère. Et il faut savoir aussi que le pape Pie IX a reçu en audience privée une délégation, donc avec à sa tête une des voyantes.
Et il était assez favorable, je crois.
Alors,
mais
le pape
Pie IX s'est
montré assez favorable sur la construction d'une petite chapelle, mais prudemment, bien sûr, il n'a évidemment rien émis, aucune décision en matière d'apparition. Oui. D'ailleurs, c'était pas lui de le faire, mais l'évêque, à l'archevêque de Toulouse. Donc,
alors, mais ça m'étonne toujours. C'est comme ce qu'on nous disions la dernière fois, pas reconnu, mais on a le droit de construire une chapelle.
Voilà,
compliqué. Merci beaucoup,
c'est
Patrick.
C'est l'évêque. Faites ce que vous voulez, mais ne me demandez rien.
Ce n'est pas moi qui l'ai dit. La semaine prochaine, nous irons à Akita, au Japon, Patrick, à Kazan, en Russie, et puis à Rome. Alors, à Rome, à Rome, bah, ce sera la surprise parce qu'il y a tellement d'apparitions à Rome finalement qu'il a fallu choisir. Écoutons à présent un extrait du Stabat Mater Dolorosa de Vivaldi, interprété par l'ensemble 415 Andrea Scholl, Chiara Bianchini. Cette œuvre constitue actuellement l'une des compositions baroques les plus connues de Vivaldi.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Justina, nous avons terminé notre cycle Théotokos la semaine dernière et maintenant attaquons en ce mois de novembre la mort, l'intercession et l'eschatologie.
Oui, j'ai décidé de prendre ce sujet puisque au mois de novembre on parle des apparitions. Et Patrick s'occupe très très bien de la partie miracle. Et moi, étant de nature un peu moins mystique, je vais essayer de donner plutôt un fondement théologique. Pourquoi nous croyons que les morts ne sont pas si morts que ça? Pourquoi l'intercession des saints nous semble possible sans que l'on puisse qualifier cela de nécromancie comme le font certains? La question de fond n'est pas de trouver un hérétique et de le mettre au bûcher, mais de se positionner. Comment nous voyons le passage de l'autre côté afin de pouvoir affirmer que l'être ne s'arrête pas avec la mort physique et en même temps éviter de sombrer dans les histoires de dames blanches et dames errantes. Pour le faire, je vais faire des réflexions axées sur un sujet par émission afin que le cycle de novembre puisse donner un certain nombre d'éléments à nos auditeurs. Aujourd'hui, je vais parler de la perception de la mort dans le judaïsme de l'époque de Jésus-Christ et un petit peu de judaïsme actuel afin de vous démontrer que le christianisme apostolique est bien dans ses bottes par rapport à nos prédécesseurs dans la foi et qu'en croyant l'intercession et l'apparition des saints possibles, nous ne faisons rien d'autre que de suivre la tradition intérieure. Mais il faudrait encore savoir laquelle. Bon, premièrement, j'ai une mauvaise nouvelle pour certains athées qui pensent encore pouvoir expliquer le phénomène religieux par la peur de la mort et qui réduisent le fait religieux à une nécessité d'inventer un espace d'outre-tombe où les gentils vont bien et les méchants souffrent. Relisez l'Ancien Testament. Quand on lit un texte, il est important de noter non seulement ce qu'il dit, mais aussi les sujets dont il n'en parle quasiment pas. Et c'est le cas de Tanakh, appellation hébraïque de l'Ancien Testament. On voit très bien que le sujet de l'outre-tombe est très peu abordé. Ce qui aussi démontre que ce n'est pas une mythologie. Les sujets mythologiques adorent la cosmologie, adorent le sujet d'outre-tombe et des voyages. Voilà, pensez à Orphée, aux enfers. L'Ancien Testament est très très pauvre là-dessus. Tout ce qu'on peut en tirer de la partie vétérotestamentaire.
Vétérotestamentaire.
C'est-à-dire du Tanakh de l'Ancien Testament.
Relatif à l'entasse.
Voilà, exactement. C'est que la mort est une anomalie, une conséquence de la chute d'Adam. La mort est quelque part aussi un moindre mal, car si Adam pouvait manger le fruit de l'immortalité dans son état déchu après avoir goûté au fruit défendu, le salut ne serait pas possible. L'espace de la mort, appelé en hébreu le Sheol, qu'on traduit vulgairement comme l'enfer, c'est un néant qui sépare l'humanité de Dieu. Toutes les observances de la loi de Moïse ne visent pas à atteindre un paradis d'outre-tombe ou éviter l'enfer avec les diablotins à caleçon rouge. Mais le respect de la loi de Moïse garantit la survie et la prospérité du peuple d'Israël. Honore ta mère et ton père afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Un des 10 commandements. Quand le Dieu d'Israël constate que son peuple ne respecte pas l'Alliance, il menace le peuple à travers les prophètes que le peuple va perdre sa terre et va être réduit en esclavage. Dieu ne dit pas qu'ils vont aller dans un chaudron une fois qu'ils seront morts. L'Ecclésiaste le dit aussi, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Donc le Sheol est le néant entre Dieu et l'homme et nul n'y échappera. Réjouis-toi car demain tu vas mourir.
Que cela donne-t-il au niveau des croyances des Juifs à l'époque du Christ ?
Alors ma source principale serait Philon d'Alexandrie, un historien juif qui est quasiment contemporain du Christ. Selon lui, on peut recenser 3 courants principaux dans le judaïsme, les Sadducéens, les Pharisiens et les Esséniens. Malheureusement, notre temps est limité afin que je puisse faire un exposé approfondi sur chaque mouvement, mais je souhaite que vous reteniez quelques caractéristiques propres à chaque courant. Les Sadducéens sont au pouvoir. La plupart fait partie du clergé du temple. Ils ne reconnaissent que la Torah écrite et ne reconnaissent pas la Torah orale, ce qui va nous donner le Talmud plus tard, et ont beaucoup de difficultés aussi avec les textes prophétiques. Donc ce sont des personnes qui suivent que la loi de Moïse écrite à la lettre. En se fondant uniquement sur les textes écrits, naturellement, ils ne croient pas ni à l'existence d'une âme immortelle, ni à la résurrection. Le sens de la religion pour eux est purement sacrificiel et politique. Nous avons un contrat avec Dieu, on doit le respecter afin de prospérer. Les pharisiens, contrairement aux sadducéens, reconnaissent la Torah orale, qu'on va connaître comme le Talmud, croient à la réparation du monde déchu, croient à la résurrection, à la fin des temps, sont obsédés par la piété, ont un certain zèle patriotique et sont en conflit avec les Sadducéens qui, à cette période, préféraient collaborer avec l'occupation romaine. Les Esséniens sont minoritaires, voire marginaux. C'est le courant le plus influencé par la pensée hellénique ou peut-être égyptienne. Ils privilégient une ascèse totalement impensable pour les Sadducéens et sont totalement apolitiques, ce qui scandalise les pharisiens. Précision importante, le judaïsme n'étant pas une religion dogmatique, ne perçoit pas ces 3 mouvements comme des hérésies à l'intérieur du judaïsme. Oui, ils polémisent les uns avec les autres, on peut penser que son voisin est bizarre, mais à partir du moment où vous êtes juif, né d'une mère juive, et que vous respectez les mitzvot, c'est-à-dire les commandements, vous resterez juif. L'excommunication n'existe pas, seulement la peine de mort dans les cas graves est justement prévue par la loi de Moïse.
Alors, où est-ce que vous voulez en venir par cette simple présentation de ces 3 courants ?
Alors, je vous propose de regarder les polémiques que nous vivons aujourd'hui entre chrétiens de toute confession au sujet de l'outre-tombe en général et plus particulièrement à propos ne serait-ce que de l'acceptation de l'idée de l'intercession des saints et par conséquent les apparitions, dont les apparitions mariales. Aujourd'hui, essentiellement sur les réseaux sociaux, les chrétiens apostoliques subissent des critiques assez violentes de la part de certains chrétiens de mouvances évangéliques. Et afin de ne pas mettre de l'huile sur le feu, je vous propose d'explorer les sources de nos modes de pensée qui divergent. Et c'est pour cela qu'il faut regarder plus profond dans l'histoire des religions et revenir 2000 ans en arrière. Le mouvement sadducéen a cessé son existence avec la chute du temple en l'an 68. Le mouvement pharisien a été à l'origine du judaïsme rabbinique. Les Esséniens ont fondu dans la masse des gnostiques chrétiens au fil des siècles. Et maintenant, je vous invite à regarder les pratiques du judaïsme rabbinique actuel. Malgré notre désaccord total à propos de qui est Jésus, Christ pour nous, et Christ et pas Christ pour eux, et d'autres points, excusez-moi, mais ils prient sur les tombes de leurs tzaddiks, des justes, des rabbins. Les pèlerinages sont organisés. Les chrétiens apostoliques sont aussi issus de judaïsme pharisien. Merci l'apôtre Paul. Notre méthodologie est pharisienne par essence. Le rapport à la tradition, les pères de l'Église sont de quelque sorte des grands rabbins. Les écoles de théologie polémisent entre elles, tout comme chez les juifs rabbiniques. Et de l'autre côté, nous trouvons beaucoup de similitudes entre la pensée sadducéenne et la pensée de certains protestants et post-protestants. Le principe de sola scriptura, une métaphysique pas très développée, la théologie de prospérité. Donc pour moi, le débat sur la mort ou la non-mort, en attendant la fin des temps, n'est pas en réalité un débat entre chrétiens, mais un vieux débat entre les sadducéens et les pharisiens. Et la semaine prochaine, nous allons pouvoir aborder les fondements pour défendre notre position pharisienne au sein du Nouveau Testament. Oui, donc nous sommes tous des pharisiens, je vous félicite.
Merci beaucoup, Justina, magnifique. Alors, préoccupons-nous de nouveau cette semaine de cette fameuse ceinture de la Vierge Marie et poursuivons notre enquête. Alors, d'autres églises possèdent des fragments dont il est difficile de savoir s'ils proviennent d'un partage de celle de Calcoprateia ou bien si elles sont des reproductions anciennes de l'original. C'était une pratique courante de confectionner des modèles qu'on mettait au contact de l'original et qui étaient considérés dès lors comme reliques de troisième classe. Ou bien encore d'une autre ceinture. La Sainte Vierge aurait pu tout à fait avoir plusieurs ceintures. Alors chez nous, en France, nous avons un fragment de 2,8 cm dans un fourreau reliquaire à la collégiale de Puy-Notre-Dame à côté de Saumur. Sans doute un fragment de celle de Constantinople rapporté par Guillaume IX grâce à la troisième croisade. Un texte atteste qu'elle fut déposée au XIIe siècle. Aliénor d'Aquitaine, petite fille de Guillaume IX, fit construire l'église actuelle entre 1154 et 1250, ayant effectué de nombreux pèlerinages pour y vénérer cette ceinture. Saint Louis, Charles VII, Louis XI viennent successivement faire leur dévotion. Anne de Bretagne l'utilisera pour le dauphin Charles. Charles. Anne d'Autriche le fera venir un peu avant la naissance de Louis XIV. Une copie d'une lettre datée du 7 août 1638 est détenue à l'église. Et Charles Louvet, maire de la ville de Saumur, écrivit même à Napoléon III afin de proposer à l'impératrice Eugénie les bienfaits de la Sainte Ceinture pour la future naissance du prince Louis Eugène. En effet, on disait que cette relique possédait la vertu de favoriser la naissance d'enfants mâles, d'adoucir les souffrances des femmes enceintes et de faciliter les accouchements. Alors, un autre petit fragment de seulement 7 cm par 3, attesté depuis 1252 dans l'église de Quintin, en Bretagne. Robert de Saint-Ange, ancien patriarche de Jérusalem, aurait remis à Geoffrey Botrel, seigneur de Quintin, cette précieuse relique. Au XIIIe siècle, Saint-Yves vint s'agenouiller devant la ceinture. En 1418, ce fut au tour de Saint-Vincent Ferrier et la bienheureuse Françoise d'Ambroise. En 1451, elle récupéra un morceau de la Sainte Relique. En 1600, un terrible incendie eut lieu et tout le monde pensa que le trésor était perdu. Mais quelques jours après ce drame, on trouva la ceinture légèrement roussie au milieu des gravats. Un Te Deum fut chanté le jour même dans la collégiale en ruine. En 1611, Melchior de Marconnet fit ouvrir une enquête solennelle et minutieuse dont nous retrouvons la trace aujourd'hui. La collégiale fut rebâtie et maintenant s'élève une belle église gothique, somme toute récente puisqu'elle fut construite entre 1883 et 1887 en l'honneur de Notre-Dame de Délivrance. Elle fut érigée en basilique mineure en 1933 et le pardon à la Vierge Marie sous le vocable Notre-Dame de délivrance a lieu chaque année le deuxième dimanche de mai. Quant à la ceinture de la Vierge que possède la collégiale de Loches, il en existe deux versions. Soit elle fut envoyée en cadeau par Constantinople à l'empereur d'Occident Charles le Chauve. Son arrière-petit-fils Lothaire, roi des Francs, offrit cette précieuse relique à Geoffroy Ier. Le comte d'Anjou dit Grisgonel, lequel la déposa dans la collégiale Notre-Dame, qu'il s'était fait bâtir dans son château de Loches, où elle se trouve encore aujourd'hui. Soit ce fut un cadeau de la femme de Lothaire pour protéger Geoffroy Ier, qui batailla contre un prince allemand du nom d'Edelt, pour protéger la couronne de France qui revenait à Lothaire. Sa grande taille pourrait laisser entendre qu'il s'agirait d'une copie de celle alors conservée à Constantinople et non encore divisée. Une comparaison intéressante entre les ceintures de Puy Notre-Dame et de Loches fait ressortir deux tissages radicalement différents. Par ailleurs, dans la ville d'Homs, en Syrie, en l'église de la Ceinture de la Vierge, des fouilles effectuées en 1852, puis à nouveau le 20 juillet 1953, ont permis de découvrir au centre de l'autel une ceinture de 74 cm de long, 5 cm de longueur, de largeur et 3 cm d'épaisseur en tissu de lin et soie qui a été daté de l'époque romaine. Selon la tradition, cette ceinture a été déposée à Homs en 476 et provenait de la ville d'Édesse. Elle y était en même temps que la translation d'une partie des reliques de saint Thomas depuis les Indes. Ce fait est à relier à la tradition selon laquelle la Vierge aurait donné une de ses ceintures à saint Thomas dont nous avions parlé la dernière fois. Donc questionnement, mais posons-nous la bonne question. La Vierge Marie aurait pu donner sa ceinture à saint Thomas avant ou lors de son Assomption, mais pas comme preuve. Pauvre saint Thomas, qu'on affuble à cause de son incrédulité lors de la résurrection du Christ, d'une nouvelle incrédulité avec l'Assomption de la Vierge Marie. Chère Justina, je terminerai en citant les paroles du Troper et du Condacion que vous chantez lors de la messe que vous célébrez pour cette fête. Mère de Dieu, toujours vierge, protection des mortels, à ta ville tu donnas comme une enceinte fortifiée la robe et la ceinture de ton corps immaculé, échappant à la corruption en vertu de ton enfantement virginal, car en toi la nature et le temps se renouvelaient. C'est pourquoi nous te prions de pacifier notre vie et d'accorder à nos âmes la grande miséricorde. Chers amis de Radio Courtoisie, nous serons très heureux de vous retrouver la semaine prochaine. Avec vous, Patrick.
Merci.
Merci. Avec vous, Justina.
Toujours.
Bonne semaine.